Si Dieu aujourd'hui parle de la peur, c'est que Dieu sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il y a des combats qui arrivent. Mais pour que nous soyons vainqueurs de ces combats, il va falloir que nous ne fuyons pas.
Les obstacles, c'est une force extérieure qui vient s'opposer à vous dans le but de vous empêcher de réaliser votre désir.
Il n'y a pas d'exploit sans guerre. Quand on parle d'exploit, c'est qu'on parle de lutte. C'est qu'on parle d'acharnement, c'est qu'on parle de guerre.
Notez ceci, peu de personnes voient en la défaite un appel urgent à redoubler l'effort. C'est-à-dire, quand vous avez connu la défaite, ne vous dites pas que c'est la fin. La défaite vous lance un message, redouble l'effort.
C'est une année où ce que nous aurons, nous allons l'obtenir au prix de notre victoire.
Enseignement numéro 7.
Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Pour réussir cette année, il vous faut développer les qualités suivantes. Vous notez, 1, avoir un but et des objectifs clairs. Qui veut réussir cette année? Je vois les mains comme ça. Amen. Première chose ou première qualité, avoir un but et des objectifs clairs. J'ai dit un but et des objectifs clairs. J'ai dit un but et des objectifs clairs. Deuxième moment, avoir Dieu comme partenaire. OK? Avoir Dieu comme partenaire. Deuxièmement, avoir Dieu comme partenaire. Troisièmement, avoir une vie de prière de qualité. Parce que si, un, vous n'avez pas un but et des objectifs clairs, vous n'allez aller nulle part. Si vous n'avez pas Dieu comme partenaire, mes amis, vous n'allez pas remporter les victoires. Et si vous n'avez pas une vie de prière de qualité, et quand je parle d'une vie de prière de qualité, je parle d'une vie de prière de profondeur. Je parle de la profondeur, ok? Je ne parle pas de la routine de tous les jours. Je parle de la profondeur. Et quand je parle de la profondeur, je parle du cœur. Un cœur qui s'exprime devant Dieu. Un cœur vrai. Quatrièmement, développer une vie de méditation de la parole de Dieu au quotidien. Développer une vie de méditation de la parole de Dieu au quotidien. Développer une vie de méditation de la parole de Dieu au quotidien. Je reconnais que la plupart de mes exploits, et je reconnais que la plupart des exploits de certains de mes collègues, dont je peux citer certains comme les deux frères Castanou, est dû à cette qualité. Vie de méditation de la parole de Dieu au quotidien. Nous avons eu la grâce de visiter leur maison. Mais quand j'ai visité leur maison, la première chose qui a attiré mon attention, c'est la qualité de la bibliothèque qu'il y avait dans leur salon. Très important. OK? 5. Être animé d'une forte volonté. Être animé d'une forte volonté pour changer les temps, les circonstances de votre existence. Être animé d'une forte volonté pour résoudre vos problèmes. Alléluia. C'est bon? 6. Être entouré des personnes de qualité. Être entouré de personnes de qualité. C'est-à-dire, vous devez avoir des personnes qui, au fait, vous apportent des précieux conseils. Des conseils qui vous permettent d'avancer dans la vie. Donc, vous devez sélectionner des personnes qui viennent se connecter à vous, qui rentrent dans votre présence. Et j'aimerais vous dire que cette saison, le diable va distraire beaucoup. Comment? Il y aura des personnes de mauvaise mentalité que le diable va envoyer pour se connecter à vous. Écrivez ça. Il faut l'écrire. J'ai dit des personnes de mauvaise mentalité qui vont venir se connecter à vous, pas dans le but de vous élever, dans le but de vous amener dans leur standard. C'est-à-dire de vous amener dans leur monde de pensée, leur manière d'agir et de réagir. OK? Donc faites très attention. N'oubliez pas que la terre est une sphère d'influence. Où vous influencez, où on vous influence. C'est très important. Donc, entourez-vous des personnes de qualité. Et c'est une clé si vous voulez réussir. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si avant tu as fait des compromis avec ça, mais cette année, ne fais pas des compromis avec ça. OK? 7. Ne pas avoir peur de prendre des initiatives. Ne pas avoir peur de prendre quoi? Des initiatives. Dieu va te mettre des choses à cœur. Fais-le. Lève-toi. Et je pense que si tu le fais, Dieu va te permettre d'avoir du succès. 8. Être discipliné. Et j'aimerais entendre tout le monde dire discipline. Oh, dites ça bien, dites discipline. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde-moi. Dis-lui, tu es assis juste à côté de moi. Mais ne sois pas choqué. Parce que cette année, je vais être discipliné. Alors, il y a des choses que tu vas voir que je vais remettre en cause dans ma vie. Dis-lui, ça cause des objectifs que je poursuis. Alors, ne sois pas choqué. Parce que la discipline va forcément m'imposer un changement dans ma manière de parler, de voir les choses, de marcher, dans ma manière de faire les choses. Donc, je vais m'imposer une discipline. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Mais vous parlez aux gens, vous me regardez. Regardez la personne qui est à côté de vous. Les gens parlent, ils me regardent. Regardez celui qui est à côté de vous. Dis-lui, je vais m'imposer une discipline. Et dis-lui, si on avait l'habitude de nous balader tard dans la nuit, maintenant c'est fini. C'est fini. Ah oui, je suis d'accord avec la servante de Dieu qui dit c'est terminé. Alléluia. Donc je dis 8, être discipliné. 9, savoir gérer votre temps. Ok? Savoir gérer quoi? Votre temps, vos finances et vos relations. 3 choses. Savoir gérer 1, votre temps. 2, vos finances et vos relations. Si vous ne savez pas gérer votre temps cette année, vous n'aurez pas de finances. Le temps, c'est de l'argent. Alléluia. Oh, quelqu'un dit amen ici? Il faut du temps pour posséder de l'argent. Alors, donc, je ne joue pas avec le temps. Alléluia. Amen. Hier, je bavardais avec quelqu'un. Elle disait, des gens croient que les finances, c'est une fin en soi. J'ai dit non, c'est parce que les gens ont mal compris. Les finances, c'est pas une fin en soi. C'est un système que Dieu a mis sur pied, puisqu'il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est un système monétaire que Dieu a mis sur pied pour récompenser ceux qui aiment le travail. Beaucoup n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amen. Parce que, en réalité, beaucoup n'aiment pas le travail. J'ai dit, c'est un système monétaire, un système financier que Dieu a mis sur pied. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'argent. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est un système divin. Ce n'est pas un système mondain. C'est un système divin. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un système divin. Et pourquoi Dieu l'a mis sur pied? Pour récompenser les efforts de ceux qui aiment le travail. Changez votre vision de l'argent. L'argent, au fait, c'est quoi? C'est une récompense. Dieu couronne mes efforts en me donnant des finances. Et quand j'ai les finances, attention, je dois bien les gérer. Alléluia. Donc, je dis savoir gérer votre temps, vos finances et vos, quoi? Vos relations. Si vous ne savez pas gérer vos relations vont grignoter votre temps. Et si vous n'avez pas le temps, vous n'aurez pas de finances. Wow. Alléluia. C'est bon? Dites, je dois apprendre à gérer mon temps. Dites, le temps, c'est l'argent. Et je dois gérer mon temps. Dites avec moi, ça veut dire, je dois avoir un emploi de temps. Chaque semaine et chaque mois, je dois savoir ce que je dois faire. Donc, ma vie doit être structurée. Dites ça bien, structurée. Parce que ça, les Gabonais n'aiment pas ça. Les Gabonais aiment l'ambiance. Il faut que ça rentre dans votre tête. Dites, ma vie doit être structurée. Organisée. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce que le temps, c'est l'argent. Et gérez vos relations. Parce qu'il y a des gaspilleurs du temps. Et celui qui ne respecte pas votre temps, ne respecte pas vos buts. Quelqu'un qui ne respecte pas ton temps, c'est qui ne respecte pas la vision que tu poursuis. C'est qui ne respecte pas le but que tu poursuis. Et s'il ne respecte pas le but que tu poursuis, c'est qui ne respecte pas ton destin. Parce que si tu n'atteins pas ton but, tu ne pourras jamais te réaliser. Quand on parle de destin, on parle du futur. C'est que je suis appelé à être ou c'est que je suis appelé à devenir. Il faut que ça soit clair. Mais pour que je puisse devenir cette personne que je vois de moi dans le futur, j'ai besoin du temps. Waouh! Quelqu'un dit amen ici. Et mes relations doivent apprendre à respecter mon temps. Parce que s'ils ne respectent pas mon temps, c'est qu'ils ne respectent pas mon but. Et s'ils ne respectent pas mon but, c'est qu'ils ne respectent pas mon destin. Et vous allez voir les gens vont vous dire, ah, mais ça sera quoi? Quand maman doit parler, toi aussi. C'est quoi? Méditer la parole de Dieu tous les jours, hein, tout ton travail, détends-toi un peu. Non, lui, il n'a rien à faire. Tes priorités ne sont pas ses priorités. Il n'a rien à faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on te cherche. J'ai dit, pour faire quoi? Mes frères, la communion fraternelle. J'ai dit, est-ce qu'elle souffre d'un problème? La Bible dit, il y a un temps pour tout. Est-ce que c'est bon? Qui veut réussir ici, cette année? En tout cas, ce qui est sûr, en tant que votre berger, à partir du mois de février, je vous pousse et c'est obligatoire. Je vous pousse. Parce que si vous ne vous réalisez pas dans votre vie, vous ne serez pas utile à l'église. Ne croyez pas que si vous êtes tocard dehors, c'est ici que vous allez être performant. Non, non. Ici, ce n'est que la conséquence de ce que vous êtes dehors. Et vous amenez ce que vous êtes ici. Donc, si vous êtes médiocre là-bas, c'est pas ici que vous allez être excellent. Et l'église, ce n'est pas un rassemblement de tocards et de médiocres. L'église est un rassemblement des gens qui ont une vision, qui ont une conscience, qui sont consciencieux de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont appelés à devenir. Au fait, je vous l'ai dit, c'est un rassemblement des gens responsables. Des hommes responsables qui assurent leur vie, qui assurent leur destinée. Des hommes qui apportent des solutions aux problèmes du monde. Des gens qui apportent des réponses. Donc ce n'est pas un rassemblement de tintins. Des gens qui ont la bague piquante et qui ne savent pas où ils vont. Ok, les talons penchant 90 degrés, non, on l'était avant. Maintenant, nous avons la connaissance. Et comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, nous redonner de l'équilibre à nos talons. Et ça commence d'abord par aller chez le coordinateur pour dire, ajoute un peu. Et en attendant que je possède une nouvelle paire de chaussures. Alléluia. La prospérité n'est pas brutale, elle est progressive. Et quelqu'un dit amen ici. Et j'ai dit au nom de Jésus que l'esprit de tristesse quitte certains. Je sens qu'il y a des gens ici, vous vous battez, vous êtes triste, vous êtes... Calmez-vous. La vie doit se prendre dans la simplicité. Dans la simplicité. Si vous embrassez la vie avec une mentalité broke, vous allez être nerveux. Prenez-la simplement. Vous voyez, quand Dieu a donné la vie, il n'a pas compliqué, il a juste fait... C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Oh, nous tous, on peut le faire. Il a juste fait, et la Bible dit, et l'homme devint. Donc, Dieu a donné la vie comment? Simplement par un souffle. Et pourquoi vous voulez recevoir la vie en état compliqué dans vos mathématiques? Recevez ça simplement. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. J'ai dit amen. Donc, mon thème, c'est le pouvoir de la peur et notre destinée. Et j'ai choisi comme sous-thème aujourd'hui les 16 ennemis de la persévérance. Les 16 ennemis de quoi? De la persévérance. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent percer? Qui veulent persévérer? Persévérer. Qui veut voir ici? Alléluia. Persévérance veut dire quoi? Persévérer. Donc si tu perces, tu verras. Si tu ne perces pas, tu ne verras pas. Persévérance, persévérer. Alléluia. Et je vais parler de quoi? Les 16 ennemis de la persévérance. Les 16 ennemis de la persévérance. Dites les 16 ennemis. Bon, moi j'ai essayé de trouver 16. Vous pouvez trouver plus. Mais pour moi, je n'ai vu que 16. Est-ce que c'est bon? Ok, mais je pense que vous pouvez en trouver même 98 en fonction de vos difficultés. Mais moi, je n'ai trouvé que 16. Alors, le psaume 60, le verset 14 dit, avec Dieu, gloire au Seigneur, je crois à ce texte, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez, la Bible ne dit pas que nous ferons. Pourquoi nous ferons? Parce que Dieu a placé ce texte au futur. Donc, si vous croyez aux victoires futures, vous allez les obtenir. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Il qui, Dieu, pas vous, il, Dieu, écrasera quoi? Nos ennemis. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu connaît nos ennemis. Alors si Dieu les connaît, soyez-en sûrs qu'ils sont déjà vaincus. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Dans la version Parole de vie, il est dit ceci, avec Dieu, nous remporterons cette année quoi? La victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, dans cette saison, nous remporterons des victoires. Nous remporterons des victoires. Amen. Et dans ce texte, il est dit, nous remporterons la victoire. Mais cette victoire porte en elle des victoires. Alléluia. Nous remporterons des victoires. Et je le déclare pour chaque personne de la commission JCR, il n'y a pas une autre saison comme celle-là où tu dois remporter des trophées. J'ai dit, tu dois remporter des trophées. Tu ne m'as pas bien écouté, j'ai dit, tu dois remporter les trophées. Amen. Et je vais t'aider à remporter les trophées. Amen. C'est la saison des trophées. C'est la saison où chaque personne doit venir ici et dire, pasteur, voilà mon trophée, nous louons le Seigneur, et si tu ne le fais pas, tu ne vas pas stimuler notre foi. Chacun doit être capable de venir tout au long de cette année dire, mes amis, on a dit c'est la saison des trophées, voilà mon trophée, et nous crions tous avec toi, Alléluia! Amen. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Et s'il y a des gens d'autres qui ont commencé, amenez-nous les trophées. On veut voir ce que Dieu fait avec vous. À partir de dimanche prochain, venez nous dire. On ne vous demande pas de venir nous prêcher. On vous demande de venir nous montrer le trophée. Et quelqu'un peut dire ici, amen. Avec Dieu, nous remporterons quoi? Des victoires. Merci Seigneur pour la télé. Merci Seigneur pour JCIA TV Impact. Nous le verrons. On va remporter cette victoire parce que je vois déjà la chose. Alléluia pour les caméras. Alléluia pour un message 24 heures sur 24. Je le crois et je le confesse. Alléluia pour le bâtiment qui va abriter la télévision et la radio. Que quelqu'un dit amen ici. Pourquoi? Nous allons remporter des victoires. On n'a pas besoin de la vie du diable. Nous ne le consultons pas. Il est sous nos pieds. Oh, alléluia! Et même s'il s'élève, nous savons que les difficultés sont les marches d'escalier pour nous amener plus haut. On n'a pas de problème avec les problèmes. Parce que les problèmes nous transmettent un message. Redouble d'effort. Quelqu'un dit amen ici. Alléluia! Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Vous savez pourquoi les personnes échouent? Je vais vous expliquer quelque chose. Mes amis, il est démontré que 89% de ce que les gens retiennent proviennent de la stimulation visuelle. Je réponds. Il est démontré que 89% de ce que les gens retiennent proviennent de la stimulation visuelle. 10% de la stimulation auditive et 1% des autres sens. Vous m'avez pas bien compris. Je dis, il est démontré. Vous voulez vivre dans la victoire? Attention, je vous donne ici un point important qui va vous aider à vivre dans la victoire, à avancer. Je dis bien, il est démontré que 89% de ce que les gens retiennent provient de la stimulation visuelle. C'est-à-dire, ce que les gens retiennent, ce que les gens emmagasinent, est engendré par quoi? Par ce qu'ils ont vu. Ok? Et 10% de la stimulation auditive. Donc, ce que vous entendez, vous m'écoutez ce matin, vous m'entendez, et quel est le pourcentage? 10%. 10% d'écoute, mais 89% de visuel. Et
1% pour les autres sens. 1% pour les autres sens. 10% pourquoi? Pour l'auditif. 89% de visuel. Donc, si 1% c'est pour les autres sens, c'est pas mon focus. Si 10% provient de ce que j'entends, gloire à Dieu, c'est pas vraiment trop compliqué. Mais je dois quand même faire attention. Mais 89% de ce que je retiens, ce que je retiens, c'est ce qui affecte ma manière de penser, de voir, de concevoir les choses, provient de quoi? De la vue. Donc, si je veux réussir cette année, je dois faire attention à ce que je mets devant moi. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas vaincu Goliath? Ouvrez vos Bibles, rapidement. Ouvrez vos Bibles. 1 Samuel 17, c'est bon? Verset 23. 1 Samuel 17, verset 23. On dit, tandis qu'il parlait avec eux, il est question de David, le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangées des Philistins. Il, c'est-à-dire Goliath, tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Il fut saisi d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu? Qu'est-ce qui les a effrayés? La vue. Tout ce que Goliath disait, le pourcentage c'était combien? 10%. Les autres sens, combien? 1%. Mais la vue, le pourcentage c'était combien? 89%. Et ils disent, au verset 25, ils disent ceci, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Point d'interrogation. En d'autres termes, est-ce que vous voyez ce que nous voyons? Est-ce que vous avez la même vision que nous? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous voyez l'image qui s'impose devant nous? Wow! Alléluia! Quand ils sont revenus d'où? D'explorer le pays de Canaan. Le rapport qu'ils font aux enfants d'Israël, c'est quoi? Il dit ceci. Il parle à Moïse, il dit, en vérité, dans Nombre 13, le pays que tu nous as envoyé explorer, en vérité, est un bon pays. Et voici les fruits. Il montre les fruits. Il dit, il y a du bon fruit, il y a du bon. Mais, nous avons vu. Et ce qu'ils ont vu, mes amis, les a effrayés. Et je vais vous donner une révélation. Dites merci Seigneur pour la révélation. Est-ce que vous savez que ce qui a paralysé Israël face à Goliath, ce n'était pas le Goliath qui parlait. C'est le Goliath qu'ils avaient en eux. C'est-à-dire, la révélation qu'ils avaient du Goliath à chair et en os. C'est pas le Goliath à chair et en os qui les effrayait, mais la révélation qu'ils avaient de ce Goliath-là, c'est-à-dire ce qui était en eux, c'est ça qui les faisait peur. C'est pour ça que les espions, plutôt, quand ils sont revenus, ils ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux, comme quoi? Comme les sauterelles. Or, quand on lit le texte, les fils d'un aigle ne les ont jamais vus. Jamais. Il n'y a jamais eu rencontre. Jamais. Mais ils ont quand même l'audace de dire. Il dit non. Écoutez, je vais vous expliquer ça en français courant. Quand nous sommes partis, quand ils nous ont vus, et nous on les a vus, et quand ils
nous sommes vus.
Tu comprends quelque chose?
Nous étions à leurs yeux et à nos yeux. Vous voyez, ils ont même l'interprétation du regard des autres. À leurs yeux. C'est, ils sont rentrés en eux pour comprendre comment ils fonctionnaient dans la tête. Donc, à leurs yeux, mais aussi à nos yeux. C'est-à-dire, la révélation qu'ils ont été identique à la nôtre. Il dit comme des sauterelles. C'est comme s'ils disaient aux gens, c'est déjà à ce niveau-là, ils ne nous ont même pas encore attaqués. Rien que dans la révélation, on est comme des sauterelles. Pourquoi vous voulez qu'on s'élève? Et là, écoutez, hein, lisez bien le texte dans Nombre 13. La Bible dit, quand le peuple entendit ça, eux aussi, ils se mettent à pleurer. Sur quelle base? Sur quelle base? De l'image que les autres étaient en train de décrire. Mais d'un côté, on a deux gars qui disent, non, calmez-vous. Ils nous serviront de pâture. Ils ont une autre révélation. Les autres voient les géants, eux, les autres voient les pâtures. Et quand David regarde Goliath, il dit, de la même manière que j'ai traité l'ours, de la même manière que j'ai traité le lion, je vais te traiter de la même manière. Faites attention à ce que vous voyez. L'environnement joue un rôle. La première image que vous avez de la journée de vous détermine votre réaction dans la journée. Je parle de ses ennemis. Les ses ennemis de quoi? De la persévérance. Est-ce que c'est bon? Premier ennemi, l'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. L'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. Quand quelqu'un ne peut pas vous définir clairement ce qu'il veut, il ne va jamais persévérer. Il est dans la confusion. Même si vous apportez un message sur la foi, l'audace, transporter les montagnes, l'onction Josué, l'onction de conquérant, il vous écoute, mais en réalité, en lui, se disent même, il nous amène où? Parce que, en réalité, moi-même, je ne sais même pas. Donc, l'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. Comme il ne sait pas ce qu'il veut, vous pouvez enseigner, vous écoutez, il parle bien. Ah, oh, Dieu l'a béni. Mais pour nous là, nous qui ne voyons rien. C'est pour cela, quand vous avez la capacité de voir ce que vous poursuivez, vous avez 89% d'influence qui s'exerce sur vous. Et c'est ça qui vous pousse à la persévérance. L'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. C'est pour ça que Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Donc, qu'est-ce qui amène le peuple à se discipliner? C'est la vision. La vision. Quand vous avez la vision, c'est pour ça que j'ai à cœur d'imprimer les objectifs de cette année sur une brochure, parce que il faudrait que vous vous contrôlez. C'est-à-dire, même quand vous allez venir à l'église, vous serez conditionné par la vision. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Qu'est-ce qui peut faire la force de gouvernement africain? C'est si ils arrivent à traduire clairement la vision, les objectifs que le gouvernement veut atteindre. Prendre ces objectifs-là, et ensuite, prendre l'objectif principal, le fragmenter, et l'imposer à chaque département. Et quand chaque département va atteindre la portion de la vision, en réalité, c'est toute la vision qui s'est accomplie. Quelqu'un dit amen ici? Qui comprend quelque chose? En fait, on est ministre pour accomplir une vision. On n'est pas ministre pour s'asseoir. Waouh! Et quand il n'a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. La version Parole de vie dit ceci. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. Quand personne ne prévoit l'avenir, vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils ne prévoient pas l'avenir, ils vivent comme ça, ils ne prévoient rien. Et quand tu leur parles de l'avenir, ils ont même peur. Oh, pourquoi ils nous parlent comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'il va mourir? Non. Qui vous a dit que quand on parle du futur, ça veut dire que tu vas mourir? Et la Bible dit, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans quoi? Dans quoi? Dans le désordre. Quelqu'un qui prévoit l'avenir ne peut pas vivre comme tout le monde. Quand je sais ce que je poursuis, quand je sais ce que je vais atteindre avec le Seigneur, quand je sais ce que Dieu m'impose comme exigence, quand je connais demain ce que je suis appelé à être, mais je commence à me discipliner maintenant. Je n'attends pas que la faveur vienne me trouver pour me discipliner. Quand tu as la vision d'être prospère, tu commences à discipliner tes finances maintenant. Si tu ne sais pas déjà gérer les 10 000 que tu as, tu ne pourras pas gérer les millions. Quand tu as la vision de devenir quelqu'un de grand, tu commences à gérer le peu que tu as maintenant. Comment tu gères ce que tu as maintenant? La manière dont tu utilises l'argent démontre que tu n'as pas de vision. Mais quand tu as une vision, tu gères le peu que tu as. Une personne m'a dit, mais... Bon, c'est celui qui s'occupe de la vidange de la voiture qu'on m'a offert. Il m'a dit, mais pasteur, depuis 4 ans, votre voiture, on dit qu'elle est toujours neuve. J'ai dit, c'est normal. Je n'ai qu'une. J'ai besoin d'elle maintenant et j'ai besoin d'elle pour le futur. Donc, comme j'ai besoin d'elle pour demain, je l'entretiens bien aujourd'hui. C'est tout. Elle n'est pas appelée à me servir qu'aujourd'hui, mais demain aussi. Et comme je n'ai pas encore d'eux, eh bien, je conserve bien. C'est ce qu'on appelle les acquis. Et quand il n'y a pas de vision, quand on ne prévoit pas l'avenir, on vit dans le désordre. C'est ce qui fait même la différence entre nous. Il y a les gens qui ont pris conscience de leur futur, ils se sont imposés une discipline. Parce qu'ils savent que s'ils ne s'imposent pas cette discipline, ils ne vont jamais réussir. Et puis vous avez les gens qui vivent le jour sans vision. Sans vision. Sans vision. Deuxième ennemi de la persévérance, l'hésitation et son lot d'alibi et d'excuses. L'hésitation et son lot de quoi? D'alibi et d'excuses. Oh, je sais que j'ai un avenir, frère. Je sais que j'ai un avenir, mais pour le moment, Dieu me comprend. C'est faux, papa. C'est faux, maman. Il ne te comprend pas. Il ne te comprend pas. Quand une personne prévoit l'avenir, il n'hésite pas dans le fait de se discipliner maintenant. L'hésitation est son lot d'alibi et d'excuses. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6, déclare, le matin, je vais entendre tout le monde dire ça fort, dites le matin. Non, les Gabonais ne vous ont pas écouté, dites ça avec autorité. Ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali et tout le reste ne vous ont pas écouté, dites le matin. Les autres communautés religieuses au Gabon ne vous ont pas écouté. Dites le matin. La Bible dit quoi? La Bible ne dit pas à midi. La Bible ne dit pas à 15h. La Bible dit le matin. Sème quoi? Ta semence. Et le soir, dites le soir. Dites le matin. Dites ça bien avec autorité. Dites le matin. Dites le soir. 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 Vous avez le programme pour réussir. Le matin, le soir. La Bible dit le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas ta main inactive. Car de deux choses, tu ne sais pas celle qui réussira, ou si elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. Donc si tu ne réussis pas le matin, tu vas réussir le soir. Ou tu vas réussir le matin et tu vas réussir aussi le soir. Mais comme Dieu nous a dit, la faveur cette année sera en double. Donc on réussit le matin et on réussit le soir. Que quelqu'un dit amen ici. Que quelqu'un dit amen ici. Est-ce que c'est bon? La version parole de vie dit ceci. C'est pourquoi sème quoi? Tes grains dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. Les gens qui vont réussir, ce sont les gens qui aiment la bosse, qui aiment le travail. La Bible dit, en effet,
Quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là? Tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes tous les deux. Le matin, n'arrête pas de travailler jusqu'au soir. Travaille! 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 Oh, ça c'est un mot que j'aime. Travaille. J'aime quoi? Le travail. Troisième ennemi de la persévérance. Le manque de quoi? D'intérêt pour un enseignement spécifique. En parenthèse, le refus d'apprendre ou de se former. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites pas de l'instruction une priorité de votre existence. Si vous voulez devenir plus dans la vie, devenez plus. Donnez un plus à votre vie. Et donner un plus à sa vie, c'est tout simplement ajouter à sa vie la connaissance qu'il faut pour que vous puissiez vous exprimer dans la vie. Il y a des choses que vous devez apprendre. Il y a des choses que j'apprends. Être pasteur ne veut pas dire qu'on a atteint, comment dire, l'apogée de la connaissance. On apprend chaque jour, on apprend et on a besoin d'apprendre. Le manque d'intérêt pour un enseignement spécifique. Vous voulez réussir dans un domaine, mais mon Dieu, prenez l'enseignement qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans ce domaine-là. Si vous n'aimez pas l'enseignement, vous allez échouer. C'est pour ça que Osée 4, 6 dit, « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas quoi la connaissance. » Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que tu n'as pas la connaissance. Il dit, « Puisque toi, tu as rejeté la connaissance. » Regardez, il dit, « Je te rejette de mon sacerdoce. » En d'autres termes, Dieu n'utilise pas les ignorants. Dieu ne travaille pas avec les ignorants. Et Dieu dit, puisque tu rejettes la connaissance, il dit, moi aussi je te rejette. Et il dit quoi? Il dit ceci, je te rejette de quoi? De mon quoi? Sacerdoce. C'est-à-dire, tu n'es pas apte de travailler dans mon sacerdoce. Tu n'es pas apte d'avoir un appel. Et les gens qui n'aiment pas étudier, qui n'aiment pas l'enseignement, eux, leur désir, c'est juste prendre Jean 3,16 et courir avec ça dans le monde entier. Et ils croient que Dieu, lui, c'est ma boule, quoi. Il va marcher avec quelqu'un qui n'a que Jean 3,16. Parce que la vie n'est focalisée que sur Jean 3,16. Dieu dit, puisque tu rejettes la connaissance, il dit aussi, moi aussi, il dit quoi? Il dit, je te rejette de mon sacerdoce. La Bible dit, Moïse était instruit dans toute la sagesse d'Égypte. Il était puissant en parole et en œuvre. Quelle était la source de sa puissance en parole et en œuvre? La connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as la puissance dans la parole. Quand tu as la connaissance, tu as la puissance dans l'action. Mais quand tu es ignorant, tu ne sais même pas ce qu'il faut dire et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc la connaissance est quelque chose de très important. Et comme les jeudis, c'est le jour d'enseignement, et bien c'est le jour qu'il faut être là. Pourquoi vous attendez le dimanche? Qu'est-ce que vous faites lundi? Qu'est-ce que vous faites mardi? Qu'est-ce que vous faites mercredi? Qu'est-ce que vous faites jeudi? Qu'est-ce que vous faites vendredi? Qu'est-ce que vous faites samedi? Vous voulez grandir? Mais vous n'aimez pas la connaissance. Et vous croyez que nous, notre spécialité, c'est seulement venir ici vous enseigner. Mais non, regardez nos vies. Je suis désolé, regardez nos vies. Vous allez vous rendre compte que nous progressons. Nous progressons pourquoi? À cause de l'enseignement que nous vous apportons. Ce que nous vous prêchons nous amène à modifier notre manière d'être. Ce que nous vous enseignons nous amène à modifier notre comportement, notre mentalité, notre langage, notre manière de nous tenir dans la société. Et je pense que cette semaine... Hein, le pasteur Afambou, tu peux lever la main. Le pasteur Francis, on était dans un milieu. Ok? Au milieu des autorités, dans les histoires de présentation de vœux. Mais vous avez vu le respect que les gens ont pour nous. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la connaissance que nous avons. À la connaissance que nous avons. Et il y a des gens qui nous ont dit, vous avez intérêt à ne pas arrêter vos émissions parce que vos émissions aident le pays, aident les gens à se développer. Vous avez besoin de la connaissance. Dieu ne peut pas devenir plus en fouillant la connaissance. Vous devez aimer la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu rejettes la connaissance, il dit, je te rejette de mon sacerdoce. Il dit, comme tu as oublié la loi de ton Dieu, il dit, moi de même, j'oublie tes fils, c'est-à-dire tes enfants. C'est-à-dire ton ignorance met tes enfants en danger. Le fait que tu rejettes ta connaissance met tes enfants en danger. Il y a quelqu'un qui va dire, gloire à Dieu, je n'ai pas d'enfants, mais tu les as dans tes reins. Ils ne sont pas encore nés, papa. Mais tu les as dans tes reins. Tu portes déjà des nations. Les nations sont dans tes reins. Avant même qu'ils ne viennent au monde, rien que ta mentalité médiocre, le fait que tu fais mal enseignement, ils sont déjà en danger. Ils sont en danger.
Et les gens te rejettent aussi. Et là, vous comprenez que Dieu, c'est un Dieu élégant. Dieu affectionne la connaissance. Toute écriture, déclare Paul, est inspirée de Dieu. Utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour instruire dans toute la justice. Ok? Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, les chrétiens, vous devez être performants en tout. Vous voulez influencer le monde? Étudiez tout. Ne soyez pas ignorants. Étudiez tout. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Il dit, mais vous êtes dans le monde. Et puisque vous êtes dans le monde, ne vivez pas dans les nuages en disant, nous, c'est les citoyens des cieux. Les citoyens des cieux. Papa, la nouvelle Jérusalem là n'est pas encore descendue. Tu es encore sur la terre. Et tant que tu n'es pas encore allé là-bas, même si tu es citoyen des cieux, tu es encore sur la terre. Et la terre ici, hein, il y a des choses qu'il faut étudier. Parce que si tu es ignorant par rapport aux choses de la terre, tu peux même perdre ton éternité. Parce que ton ignorance peut t'amener à tomber dans des choses qui vont t'amener à perdre ton éternité. Il faut que tu connaisses la sphère dans laquelle tu vis. Est-ce que tu connais la mentalité du Gabonais? Est-ce que tu connais la sphère gabonaise? Est-ce que tu sais comment les Gabonais fonctionnent? Est-ce que tu connais le système de valeurs, Église? Et les gens, nous, on prêche l'Évangile, mais vous connaissez la sphère du Gabon? Vous ne pouvez pas toucher les Gabonais si vous ne connaissez pas la sphère. Si vous ne connaissez pas le système de valeurs. Vous savez en quoi ils croient? Vous savez ce qui fait même l'essence du Gabonais? Si tu ne connais pas le système de valeurs du Gabonais, tu ne pourras jamais influencer le Gabonais. Donc ça t'a amené à faire quoi? À étudier la société gabonaise, comprendre comment il fonctionne. Et là, ce n'est pas oh, le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, non. Non, c'est le manpower, power, 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 power. Roman power, Roman power. Étudiez, vous venez dans un pays, vous ne connaissez même pas. Vous connaissez la mentalité des gens. Et vous allez vous dire, on va influencer. Influencer quoi? Tu commences à influencer quelqu'un quand tu es capable de savoir son centre d'intérêt. Quand tu connais le centre d'intérêt d'un individu et que tu rentres dans son monde, tu l'influences. Parce que tu vas commencer à toucher des choses, à bouger des choses qui vont l'amener à revoir sa position. Mais si tu ne le connais pas, hein? Vous, on vous met devant moi, les chrétiens me font rire. Ils voient quelqu'un qui est bien habillé devant le... Hein? Oh, les gens du monde. Les gens du monde. Regardez que tu es là. Avance. Les choses du monde. Hein? Regardez un peu votre auditoire. Regardez. Moi, j'aime bien l'auditoire du Christ. Il avait tellement influencé. Et vous savez, et Jésus a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit, pendant que je suis dans le monde, vous voulez que je vous choque? Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que pendant que je suis là, c'est moi qui fais le monde. C'est moi qui les éclaire, c'est moi qui les oriente, c'est moi qui les éduque, c'est moi qui les enseigne. Pendant que je suis là. Et vous vous dites quoi? Et le Christ nous a dit la même chose. Vous êtes la lumière, nous on dit du ciel. Et on dit, Seigneur, nous venons. Dieu lui dit, non, descendez. Non, Seigneur, nous venons. Non, l'objectif, c'est pas ici, c'est la terre. Ah, nous marchons vers toi, Seigneur. Nous sommes déterminés. Et Dieu dit, descendez. Vous venez où? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça dit que même Jésus savait que les chrétiens se cachaient. Il dit, ne vous cachez pas. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sous le boisseau. Il éclaire tout le monde. Et nous sommes là. Il dit, le champ c'est le monde. La semence c'est nous. Pourquoi Dieu nous a plantés? Si vous n'êtes pas capable d'apporter les solutions aux hommes politiques, écoutez-moi bien, et ceux qui me suivent à la télé, tout chrétien qui me suit, si vous êtes incapable d'apporter des solutions, je vais parler à ceux qui me suivent à la télé. Si vous êtes incapable d'apporter des solutions aux hommes politiques, arrêtez de les critiquer. Parce que si vous êtes incapable de résoudre ou d'apporter des réponses, c'est que vous n'avez pas en vous la capacité d'influencer le cours de l'histoire. Fais-moi ça. Quatrième ennemi de la persévérance. Waouh, dites waouh, merci Seigneur. Oh, sans que vous étiez déjà rentré quelque part, je vous ai fait sortir. Quatrième ennemi de la persévérance, l'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à votre place. Quatrième ennemi de la persévérance, l'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à votre place. Non, vous pouvez décider pour moi. Moi, il n'y a pas de décide. Ce que vous décidez, c'est ce que j'accepte. Décider. On est ensemble. Une personne qui ne sait pas prendre les décisions ne persévérera jamais. En fait, c'est une personne qui n'a pas de vision. C'est à cause de ça que vous ne réussissez pas. Parce que vous n'avez pas de but. Comme vous n'avez pas de but, vous n'avez pas de décision à prendre. En fait, une vie où la décision ne s'exprime pas révèle tout simplement un manque de volonté. Une vie où il y a un but, vous allez voir la volonté surgir. Et quand la volonté s'exprime, il y a des décisions qui sont prises. Mais une vie qui n'a pas de but, il n'y a pas de décision qui va surgir. Amen. Et une personne qui ne sait pas prendre des décisions, vous dites persévérer dans quoi? Il va vous dire, je persévère. Et toi, tu crois là-bas qu'il persévère dans le but, hein? Que tu essaies de lui communiquer. Il persévère dans son désir de te laisser prendre des décisions à sa place. C'est-à-dire, papa, remporte des victoires pour nous tous. On est ensemble. Job 22, le verset 28 nous donne une clé. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Sur tes sentiers brillera quoi? La lumière. Remarquez bien, à tes résolutions, pas à mes résolutions. Pas aux résolutions des autres. Si c'est les autres qui décident pour toi, tu sais ce que ça veut dire? Je vais te choquer. Si c'est d'autres qui décident pour toi, c'est qu'au fait, ce sont eux qui gèrent ta vie, qui dictent ta conduite, qui orientent ta vie, qui peuvent te dire fais ça et ne fais pas ça. Puisque c'est eux qui prennent les risques, donc ils ont le droit sur ta vie. Et comme ils ont le droit sur ta vie, tu n'as rien à dire. Tu es leur possession. La Bible ne dit pas aux résolutions des autres répondra le succès pour toi. C'est à tes résolutions, à toi. Mes résolutions apportent le succès à ma vie. Tes résolutions apporteront le succès à ta vie. Mais tout dépend des résolutions que nous avons eues à prendre. Parce qu'une résolution cache un objectif à atteindre. Et vous serez toujours géré, toute la vie. Oh mon, ne me comprends pas, tu es géré, tais-toi. Et tiens, vous allez faire sortir la tête. Moi aussi, j'existe. C'est pour ça que vous voyez dans nos familles, il y a des gens quand ils veulent parler, chien, tais-toi. Il s'était jusqu'à la fin de la réunion. Pourquoi? Il est géré. Le pain, on lui paye. L'eau qu'il boit, on paye. Le lit sur lequel il dort, on lui paye. La maison, on lui paye. Pour sortir, on lui paye. Le pantalon, la robe, on prend tout pour lui. On décide pour lui. Et puis à la réunion, il veut faire sortir la tête pour dire, j'ai quelque chose. Il dit, ah, tais-toi. Et il s'était. Et quand il s'était, c'est qu'il reconnaît que oui, au fait, c'est vous qui décidez. Oui, mes seigneurs, je me calme, mes seigneurs. Révérence éternelle, révérence. Cinquième ennemi de la persévérance, l'habitude de se reposer sur des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à son problème. L'habitude de se reposer sur quoi? Des excuses. Au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à son problème. L'habitude de se reposer sur des excuses. Pourquoi tu n'as pas fait? Oh non, en réalité, si l'année dernière, je n'ai pas atteint mes objectifs, c'est parce que le frère est venu, il m'a défocalisé. Hein? Vous savez que quand vous poursuivez un objectif, même quelqu'un qui vient te dire, ma soeur, que je t'aime, tu le regardes bien comme ça. Parce que il peut être un agent pour venir te distraire dans ton focus. Parce que quelqu'un qui vient se positionner dans ta vie pour te dire, je t'aime, il faut bien lui demander, est-ce que tu es capable de poursuivre le rêve avec moi? S'il n'est pas capable, et si tu n'as pas le discernement, il va t'amener à porter un fardeau avant le temps. Que c'est qu'on les oreilles pour entendre. Ecclésiaste 11, les versets 4 jusqu'au verset 6. Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Continue à regarder les nuages, des excuses. Non. Ouais, et quand il parle, il regarde toujours. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Quelles sont les décisions? C'est le seul moment où il bombe la partie. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Homme de Dieu. L'année dernière, Dieu m'avait dit, lève-toi. Cette année même, il t'a dit, assieds-toi. Donc, c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Paresseux, voyou, bandit. Il regarde les nuages. Et ils sont pleins comme ça qui viennent se cacher dans l'église. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment. Je vais vous donner une révélation. Je vais le lire autrement. Comme tu ne sais pas quel est le chemin des Piébi. Beaucoup n'ont rien fait. Beaucoup ne comprennent rien. Je reprends. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Comme tu ne sais pas quel est le chemin des Piébi. Piébi veut dire le vent. Vous avez reçu la révélation? Ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas. On est d'observer les nuages de rêver. Fais quelque chose. Dans ce que tu vas faire là, tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande de faire ça. Tu ne sais pas là où ça va t'amener. La Bible dit, de la même manière que tu ne sais pas le chemin du vent, Piébi, ni comment se forment les eaux dans le ventre d'une femme enceinte. Tu sais comment les eaux se forment? On va se mettre à dire, c'est quand le sperme rencontre l'ovule. D'accord, le sperme est liquide, l'ovule est liquide. Mais là, quand le liquide et le liquide se rencontrent, tu sais maintenant le mécanisme? Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Avec les deux liquides, il y a les cheveux, il y a les os, il y a les veines, il y a le sang, il y a tout. Tu sais? Tu connais les mathématiques de Dieu? Dieu dit ovule plus spermatozoïde rencontre, ça crée quoi? Ça crée un être humain. Et il y a une diversité. L'autre là-bas, c'est sexe féminin, sexe masculin. Des fois, c'est deux sexes masculins qui sortent ou deux sexes féminins. Mais Dieu joue avec l'ovule et avec le sperme de l'homme. Il fait ces mathématiques-là. Et vous savez les mathématiques que Dieu fait avec le fait de se lever le matin, de se lever le soir, de faire quelque chose? Quand le matin, le soir, il y a l'activité, vous savez ce que Dieu fait au milieu? C'est pour ça qu'au verset 6, il dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également. Bon, qu'est-ce que tu sais? Le matin fait, le soir fait. C'est comme le sperme et l'ovule. L'ovule et le sperme, le matin et le soir. Dieu joue avec les deux choses-là. Le matin et le soir, il fait quelque chose. Bon. Sixième ennemi de la persévérance, le contentement de soi. Il n'y a malheureusement rien à faire contre cette maladie. C'est une maladie. Tu pousses les gens, levez-vous. Oh non, moi ça va. Hein? Faites quelque chose. Homme de Dieu, moi je te dis quelque chose. Moi, depuis le jour que j'ai accepté le Seigneur, j'ai entendu une voix en bas pour nous qui me disait, pèse ma paix sous. Doucement. Donc depuis là, moi tout que doucement. Et tout dans ma vie va venir seulement doucement. Et vous voyez qu'il n'y a rien n'échange. Le contentement de soi. Oh, je peux faire mourir comme ça, je resterai comme ça moi. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Aspirez. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, 31. Aspirons dont les meilleurs. Et je veux encore vous montrer une voie par excellence. La suite, c'est quoi? C'est l'amour. Mais la Bible nous demande de faire quoi? D'aspirer. Dites aspirer. Oh, dont les meilleurs. Septième ennemi de la persévérance. L'indifférence.
qui se manifeste habituellement par la recherche systématique de compromis, là où il aurait eu lieu de faire face à des obstacles et d'essayer de les franchir. L'indifférence qui se manifeste habituellement par la recherche systématique de compromis. C'est-à-dire, Dieu te dit affronte. Quand tu cherches un compromis à faire, tu cherches un compromis. Et Dieu ne peut pas travailler avec les hommes qui n'ont pas de conviction, des hommes qui ne sont pas déterminés. Dieu ne travaille pas avec les hommes qui aiment le compromis. Dieu aime travailler avec les gens de conviction. C'est pour ça dans Ésaïe 26, le verset 3, le verset 4, il est dit ceci. À celui qui est ferme, dans quoi? Dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu, il travaille avec les hommes de conviction. Il ne travaille pas avec les gens légers. Conviction, dites avec moi conviction. Dites ça bien, conviction. Gloire à Dieu. Le verset 4, il dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est-à-dire, il est digne de confiance. Vous pouvez vous appuyer sur lui. Vous pouvez vous appuyer sur lui. La version parole vivante rend ce verset ainsi. Ésaïe 26, 3 à 4. Il ne se laisse troubler par rien. Dans la version du second, il est dit à celui qui est ferme. Dans la version parole de vie, il est dit, il ne se laisse troubler par rien. C'est-à-dire, des hommes de conviction. Quand ils savent que le rêve qu'ils poursuivent est de Dieu, vous montez, vous descendez, vous n'allez pas les troubler. Ils ne se laissent troubler par rien, parce que c'est pas les gens qui vivent dans les émotions, ce sont les gens qui vivent dans la profondeur. Ce sont les hommes de profondeur, les hommes de conviction. Ils ne se laissent troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre, parce qu'il se confie en toi. Ils s'appuient sur Dieu, ils savent que la décision qu'ils ont eu à prendre est une bonne décision. Vous pouvez monter, descendre, vous n'allez pas les perturber. Le verset 4 déclare, faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide roc qui dure toujours. Soyez des hommes de conviction et ne vous laissez pas troubler. Vous avez pris des résolutions cette année? Eh bien, poursuivez vos résolutions. Soyez fermes. Ne vous laissez pas troubler. Huitième ennemi de la persévérance, l'habitude de critiquer les erreurs des autres. Et d'accepter les circonstances défavorables comme inévitables. L'habitude de critiquer les erreurs des autres. Les gens qui ne prennent pas les risques aiment critiquer les autres. Les gens qui ne font rien aiment critiquer les autres. Il y a des gens qui ont pour profession critiquer, analyser la situation des autres. Ça, c'est leur profession. C'est pour ça qu'ils sont toujours à l'affût des news. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui commence à se démarquer? Oui, il y a X. C'est l'enfant de qui? Il vient d'où? Lui, c'est qui? L'habitude de critiquer les autres. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer n'a pas le temps à persévérer parce qu'en réalité, il n'a pas de but. C'est quelqu'un qui vit dans l'oisivité, il n'a rien à faire. Il va de maison en maison. Et la Bible dit même qu'ils sont nombreux, ils partent séduire même les femmes aux esprits faibles. Parce que il est dit que l'homme a des grands yeux, les femmes ont des grandes oreilles. Et il y a des femmes qui m'entendent les histoires agréables. Et il y a des prédicateurs de la critique. Ils sont loin pour répandre les rumeurs. De la même manière qu'on dit qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de ceux qui apportent l'évangile de paix, qu'ils sont vraiment, vous allez m'excuser, honteux, les pieds de ceux qui apportent les rumeurs de maison en maison. L'habitude de critiquer les erreurs des autres. Qui vous a dit que l'homme est parfait? Tu peux te tromper. Non, pas seulement ils critiquent les erreurs des autres, et eux, ils acceptent les circonstances défavorables comme inévitables. C'est-à-dire, hein, quand ils vous critiquent, quand tu dis, mais toi, pourquoi tu ne réussis pas? Est-ce que c'est ma faute? Pour les autres, ça marche. Moi, ce qui m'arrive là, c'est comme ça, ma vie là, que tu vois là, depuis le sein de ma mère. Même quand ma mère me poussait, pour moi, là, c'était déjà gaspillé. Donc, ne crois pas que moi, hein, je vais réussir comme les autres. Pour moi, là, c'est condamné. Si je parle, ce n'est pas que je veux le détruire, c'est pour son bien. Vous avez compris, non? 1 Corinthiens 10, 10 déclare, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Les gens qui murmurent sont appelés à vite mourir. Le destin des gens qui murmurent, qui critiquent, qui calomnient les autres, c'est la finalité, c'est la mort. Et ça ne commence pas d'abord par la mort physique, ça commence d'abord par la mort spirituelle, un dessèchement d'onction, et ensuite une perte de vision, et ensuite une perte de logique. Et à un moment donné, quand vous les regardez, ils ne sont même plus dans la logique. Ils vont commencer à vous raconter des histoires, même qui n'ont ni technique, que vous regardez la personne, vous dites, c'est la même personne que j'ai connue hier, c'est normal. Le processus de la mort spirituelle s'est enclenché. Et ensuite, donnez-lui encore quelques années, il y aura la mort physique. Vous riez, mais c'est tragique. Parce que quelqu'un comme moi, je suis tellement occupé que je n'ai même pas le temps de savoir est-ce qu'il y a un nouveau pasteur dans la ville. Je n'ai pas le temps des autres. Tellement occupé. Regardez, l'année a commencé. Il faut réfléchir. Dimanche prochain, il faut qu'on commence le bâtiment. Il faut réfléchir pour la télé. Il faut trouver des sponsors. Il faut trouver des gens qui doivent nous aider. Il faut déjà planifier. Dès que la télévision commence, il faut au moins qu'on paye le CNC pendant une période de 3 ans. Pour fonctionner. Et s'il y a des gens qui doivent travailler, il faut déjà préparer le salaire. Je suis là-dedans, je fonctionne comme ça. Je suis déjà en train de préparer tout ça. Mais quel temps j'aurai pour vous? De savoir que tu es venu à l'église, le pantalon était déchiré. Et puis, même si ton pantalon est déchiré, paye l'aiguille. Et le fil. Et cette année, je vous interdis, et c'est l'interdit, de m'amener des histoires bizarres dans mes oreilles. Laissez-moi les choses de la ville. Quelqu'un m'a dit, oh, il faut que je voie l'évangéliste parce que les gens parlent de lui. J'ai dit, je m'en fous. À chaque fois que je passe un dimanche à la télé, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez des supporters. Ils vont parler de vous dans les maisons pendant 1 semaine. En attendant que l'autre message vienne. Ensuite, 2e catégorie, les gens qui cherchent l'époux. Ils vont te garder le nom dans la bouche pendant 1 semaine. Ensuite, 3e catégorie, ceux qui sont pour toi, qui ne sont pas pour toi, ils ne savent pas, ils sont comme ça. Donc, pour ceux qui me concernent, je sais que au Gabon, comme disent les gens maintenant, je suis adieu au Gabon. C'est-à-dire, non, pied bien sucré dans la bouche. Tu l'as vu passer, tu as encore vu son costume, oh, il a encore un nouveau podium. Oh, il sent l'argent. Oh, il paraît. Oh, oh, oh. Mais la finalité de ces gens-là, c'est qu'à force de faire « Oh, oh, ils vont monter, puis oh, ils sont par terre. » C'est tout. Donc, je vous interdis, si vous entendez comme pas de moi, laissez ça. Laissez. Proverbe 7, 22 déclare, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit découragé dessèche quoi? Les autres, les gens qui sont toujours là, abattus, non, pour moi là, c'est comme ça, pour moi là, avec cet état d'esprit, vous allez amener où? Et les collaborateurs qui ont les esprits découragés, je vais les chasser, hein? Parce que pour les défis qui nous attendent, je ne vais pas travailler avec les gens qui sont découragés, hein? Les gens qui se lèvent aujourd'hui, demain, ils commencent. Je dis quelque chose. Il y a des gens. Oh Dieu, est-ce qu'il faut que je le dise? Vous savez, je dis quelque chose. Avec l'expérience que j'ai de l'église hein, depuis un certain temps, hein, les années que j'ai fait dans l'église, depuis Bethany jusqu'à JCR, j'ai remarqué ceci. Les gens qui murmurent le plus dans l'église, ce sont les gens qui n'arrivent pas à sauter la barre d'exigence qui est imposée dans l'église. C'est-à-dire, les gens qui n'arrivent pas souvent à donner, ce sont eux qui font les meetings dans l'église pour détruire l'esprit de ceux qui sont disposés à donner. Et ce sont les mêmes personnes-là qui vont dire, « Oh non, est-ce qu'on ne pouvait pas faire comme ça ?» En réalité, les gens-là, à chaque fois qu'ils voient les autres donner, leur incapacité de donner les rend nerveux. Donc, le problème, ce n'est pas ce qu'ils donnent. Moi, je suis par exemple un responsable. Quand je vous dis de donner, je sais que je fais même plus que vous. Je n'ai pas honte de le dire. Je consens des sacrifices. Donc, je ne peux pas demander à quelqu'un de venir donner si moi, Piébi, je ne paye pas d'abord un prix supérieur à vous. Vous comprenez? Donc, quand toi, tu me critiques,
dans tout ce qui s'est fait, qui sait ce que je donne et ce que je paye comme prix? Donc quand ils voient ça, non, non, faisons les meetings. On vous a dit que l'église, c'est une république. L'église, c'est un royaume. Il y a un roi qui règne. Un royaume n'est pas géré comme une république. Et dans un royaume, il n'y a pas la démocratie. L'église n'est pas mise sur un régime démocratique. Quand l'église rentre dans un régime démocratique, c'est devenu une église humaine. Mais l'église qui est soumise au Seigneur est dans un royaume. Il est régi par les lois du royaume. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc, qu'est-ce qu'on doit appliquer dans l'église? La justice du royaume. C'est-à-dire les principes du royaume, les lois du royaume, les clés du royaume, la mentalité du royaume, le comportement du royaume. Maintenant, quand la République rentre dans l'église, l'esprit du royaume sort. C'est bon? Neuvième ennemi de la persévérance, la tiédeur du désir. La tiédeur du désir est due à la négligence du choix des intentions. La tiédeur du désir est due à la négligence du choix des intentions. Amen. La tiédeur. Et quand vous ne savez pas choisir ou prendre des décisions par rapport à vos désirs ou des intentions, mes amis, vous n'aurez jamais l'esprit de persévérance. Vous serez tiède. Il y a des gens qui sont là comme ça. Je veux, je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. Je sens que c'est ma saison. La tiédeur. La tiédeur.
Pour la suite de votre étude, veuillez insérer le CD numéro 13. En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.